Chapitre 21. Le front de libération des elfes de maison. Ce soir-là, Harry, Ron et Hermione montèrent à la volière pour envoyer Coxigru porter une lettre à Sirius. Harry voulait lui écrire tout de suite qu'il avait réussi à affronter le dragon sans dommage. Sur le chemin, Harry raconta à Ron tout ce que Sirius lui avait révélé sur Karkaroff. Ron parut choqué en apprenant que Karkaroff avait été un mange-mort, mais lorsqu'ils furent arrivés dans la volière, il déclara qu'au fond, ils auraient dû s'en douter depuis le début. « C'est logique, non ? » dit-il. « Tu te souviens de ce que Malfoy a dit dans le train ? Que son père était ami avec Karkaroff. Maintenant, on sait comment ils se sont connus. Et ils étaient sûrement ensemble avec une cagoule sur la tête à la Coupe du Monde. En tout cas, si c'est Karkaroff qui a déposé ton nom dans la coupe, il doit se sentir vraiment bête maintenant. Ça n'a pas marché. Tu n'as eu qu'une simple égratignure. Attends, je m'en occupe. » Coxigru était tellement excité à l'idée d'avoir du courrier à porter qu'il voltait autour de la tête de Harry en ululant sans cesse. Ron l'attrapa en plein vol et le maintint immobile pendant que Harry lui attachait la lettre à la patte. « Les autres tâches ne seront sûrement pas aussi dangereuses. C'est impossible !» reprit Ron en emmenant Coxigru devant la fenêtre. « Tu sais quoi ? Je crois que tu pourrais très bien remporter ce tournoi, Harry. Et je parle sérieusement !» Harry savait que Ron disait cela uniquement pour rattraper sa conduite des dernières semaines, mais il fut très touché quand même. Hermione, en revanche, appuyée contre le mur de la volière, croisa les bras et regarda Ron en fronçant les sourcils. « Il se passera encore beaucoup de choses avant que Harry ait fini ce tournoi, » dit-elle d'un ton grave. « Si c'était ça, la première tâche, je préfère ne pas penser à ce qui viendra après. » « Toi, au moins, tu sais t'y prendre pour remonter le moral des autres, » dit Ron. « Un de ces jours, tu devrais faire équipe avec le professeur Trelawney. » Il lança Coxigru au dehors et le petit hibou tomba de plusieurs mètres avant d'arriver à reprendre son vol. La lettre attachée à sa patte était plus longue, donc plus lourde qu'à l'ordinaire. Harry n'avait pas résisté au plaisir de donner à Sirius un compte-rendu détaillé de la façon dont il avait réussi à contourner, éviter, feinter la dragonne. Ils regardèrent Coxigru disparaître dans l'obscurité. Puis Ron reprit la parole. « On ferait peut-être bien de descendre, faire la fête en ton honneur, Harry. Fred et George ont dû rapporter des tas de choses de la cuisine alors qu'il est. » Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle commune de Gryffondor, il y eut à nouveau une explosion de cris, d'applaudissements, d'acclamations. Les moindres recoins débordaient de gâteaux et de cruches remplis de jus de citrouille ou de bière au beurre. Lee Jordan avait allumé quelques pétards mouillés du docteur Flibus, explosion garantie sans chaleur, qui remplissait la salle d'étincelles et d'étoiles. Dean Thomas, qu'on savait doué pour le dessin, avait déployé d'impressionnantes banderoles qui représentaient pour la plupart Harry tournoyant sur son éclair de feu au-dessus de la tête du magier à pointe. Deux autres dessins montraient Cédric, la tête en feu. Harry se servit à manger et s'assit avec Ron et Hermione. Il avait presque oublié ce que signifiait avoir faim et n'arrivait pas à croire à son bonheur. Ron était de nouveau son ami. Il avait accompli la première tâche et il avait 3 mois libres avant d'affronter la deuxième.
« Oh là là, mais c'est lourd ce truc-là » dit Lee Jordan en soupesant l'œuf d'or que Harry avait posé sur la table. « Ouvre-le, Harry. Allez, vas-y, qu'on voit un peu ce qu'il y a dedans. »
« Il doit en découvrir la signification tout seul, » dit précipitamment Hermione. « C'est dans le règlement du tournoi. »
« Je devais aussi découvrir tout seul le moyen de prendre un œuf au dragon. » lui murmura Harry, et Hermione eut un sourire un peu coupable.
« Ouais, vas-y Harry, ouvre-le !»
lancèrent plusieurs voix. Lee lui donna l'œuf. Harry glissa un ongle dans la rainure qui l'entourait et parvint à l'ouvrir. Il était creux et totalement vide. Mais dès que Harry l'eut ouvert, un horrible bruit, comme une plainte aiguë et assourdissante, s'éleva dans la salle. La seule chose comparable que Harry eût jamais entendue, c'était l'orchestre de 6 musicales qui avait joué le jour de l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête.
« Ferme-le !» s'écria Fred, les mains plaquées sur ses oreilles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Seamus Finnegan en regardant l'œuf que Harry avait refermé d'un coup sec. « On aurait dit le spectre de la mort. C'est peut-être lui que tu devras affronter la prochaine fois, Harry. »
« On aurait dit qu'on torturait quelqu'un, »
murmura Neville, qui était devenu livide et avait renversé des saucisses par terre.
« Ils vont te faire subir le sortilège d'Oloris et tu devras y résister. Ce sera ça, ta deuxième tâche. »«
Ne raconte pas de bêtises, Neville, c'est illégal, » dit Georges.
« Ils n'utiliseraient jamais un sortilège d'Oloris contre les champions. » »«
Moi, ça m'a un peu rappelé la façon de chanter de Percy. »«
Tu devras peut-être l'attaquer pendant qu'il prend sa douche, Harry. »«
Tu veux une tarte à la confiture, Hermione ?» demanda Fred.
Hermione jeta un regard soupçonneux à l'assiette qu'il lui tendait. Fred eut un sourire. « Tu peux y aller, » dit-il. « Je n'aurais rien fait. Ce sont les crèmes caramel dont il faut se méfier. » Neville, qui venait justement de manger une cuillerée de crème caramel, la recracha en s'étouffant à moitié. Fred éclata de rire.
« Une simple petite farce, Neville ?»
Hermione prit une tarte à la confiture. « C'est à la cuisine que tu es allé chercher tout ça » demanda-t-elle.
« Ouais, »
répondit Fred avec un grand sourire. D'une petite voix aiguë, il se mit alors à imiter un elfe de maison.
« Dites-nous à qui vous ferait plaisir, monsieur, nous irons vous chercher ce que vous voudrez. »
Ils se mettent en quatre. Ils seraient capables de me faire rôtir un bœuf entier si je leur disais que j'ai vraiment faim.
« Comment on fait pour aller là-bas ? » demanda Hermione d'un air dégagé.
« Oh, c'est facile. Il y a une porte cachée derrière un tableau qui représente une coupe de fruits. Il suffit de chatouiller la poire. Elle se met à rigoler et... » Fred s'interrompit, l'air soupçonneux.
« Pourquoi tu veux savoir ça ? » ?»«
Oh, pour rien, » répondit précipitamment Hermione.
« Tu as l'intention d'encourager les elfes de maison à faire grève ?» demanda Georges. « Tu vas leur distribuer des tracts et les inciter à la rébellion ?»
Il y eut quelques rires étouffés, mais Hermione resta silencieuse.
« Ne va pas leur mettre des idées en tête en leur disant qu'il leur faut des vêtements et des salaires !» l'avertit Fred. « Tu les empêcherais de travailler !»
À cet instant, Neville provoqua une petite diversion en se transformant soudain en un gros canari.
« Oh, désolé, Neville !» s'écria Fred parmi les éclats de rire. « J'avais oublié de te dire que les crèmes caramel sont ensorcelées. »
Quelques instants plus tard, Neville perdit ses plumes jaunes et retrouva son aspect normal. Il se mit à rire avec les autres.
« Crème canari !» annonça Fred à ses camarades de Gryffondor. « C'est Georges et moi qui les avons inventés. Sept morny pièces, une affaire !»
Il était près d'une heure du matin lorsque Harry, Ron, Neville, Simus et Dean montèrent se coucher. Avant de fermer les rideaux de son baldaquin, Harry posa son magyar à pointe miniature sur sa table de chevet où le minuscule dragon bâilla, se roula en boule et ferma les yeux.
En fait, songea Harry en tirant ses rideaux, Hagrid avait raison. Ils étaient finalement très sympathiques, ces dragons.
Le début du mois de décembre apporta du vent et de la neige fondue. En hiver, Poudlard était plein de courants d'air, mais lorsque Harry passait devant le vaisseau de Durmstrang, qui tanguait sous les rafales, ses voiles gonflées contre le ciel noir, il était content de se dire que de bons feux de cheminée et des murs bien épais l'attendaient au château. Le carrosse de Beaubaton devait être plutôt glacial, lui aussi. Il remarqua que Hagrid fournissait aux chevaux de Madame Maxime de bonnes quantités de whisky pur malt, leur boisson préférée. Les vapeurs d'alcool qui s'échappaient de l'abreuvoir installé dans un coin de leur enclos aurait suffi à faire tourner la tête à toute une classe de soins aux créatures magiques. Ce qui ne les aurait guère aidés, car ils avaient besoin de toutes leurs facultés pour s'occuper des horribles scroots. Et justement, le prochain cours était imminent.
« Je ne sais pas s'ils hibernent ou pas, »
dit Hagrid à ses élèves qui tremblaient de froid dans le potager aux citrouilles.
« On va les installer confortablement dans leur boîte, hein, et on verra s'ils ont envie de faire un petit somme. Voilà. »
Il ne restait plus que 10 scroots. Apparemment, les promenades sur la pelouse n'avaient en rien émoussé leur désir de s'entretuer. Chacun d'eux mesurait maintenant près d'1,80 m. Leurs épaisses carapaces grises, leurs pattes puissantes et mobiles, leurs extrémités explosives, leurs dards et leurs ventouses faisaient d'eux les plus répugnantes créatures que Harry ait jamais vues. Toute la classe contempla d'un air découragé les énormes boîtes que Hagrid avait apportées et dans lesquelles il avait disposé des oreillers et d'épaisses couvertures.
« Voilà, vous n'avez qu'à les faire entrer là-dedans et mettre un couvercle par-dessus. On verra ce qui se passera. Hein ?»
Puis il apparut que les Scroots n'hibernaient pas et n'appréciaient guère d'être enfermés dans des boîtes garnies d'oreillers.
« Oh là 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 là, pas de panique, hein, hein, pas de panique !»
s'écria bientôt Hagrid, tandis que les Scroots ravageaient le potager aux citrouilles, jonchés de débris de boîtes calcinées et encore fumantes. La plupart des élèves, Malfoy, Crabbe et Goyle en tête, étaient allés se réfugier dans la cabane de Hagrid en passant par la porte de derrière et s'étaient barricadés de l'intérieur. En revanche, Harry, Ron, Hermione et quelques autres étaient restés avec Hagrid pour l'aider. En conjuguant leurs efforts, ils avaient réussi à récupérer et attacher 9 des 10 Scroots, au prix de nombreuses brûlures et écorchures.
Il n'en restait plus qu'un seul en liberté.
« Ne lui faites pas peur !»
cria Hagrid en voyant Ron et Harry lancer sur la créature des jets d'étincelles à l'aide de leurs baguettes magiques.
Le Scroot s'avançait vers eux d'un air menaçant, son dard frémissant, formant un arc sur son dos.
« Essayez seulement de lui passer une corde autour du dard pour qu'il ne puisse pas blesser les autres. »
« Oui, ce serait dommage !» s'exclama Ron avec colère.
Harry et lui avaient reculé contre le mur de la cabane, tenant toujours le Scroot à distance à l'aide d'un jet continu d'étincelles.
« Tiens, 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 on a l'air de bien s'amuser ici. »
Rita Skeeter était appuyée contre la clôture du jardin de Hagrid et regardait le désastre. Elle était vêtue d'une épaisse cape rose foncée avec un col de fourrure violette et portait son sac en peau de crocodile sur l'épaule. Hagrid se jeta sur le Scroot qui avait coincé Ron et Harry contre le mur et l'immobilisa de tout son poids. Dans un bruit d'explosion, un jet de feu jaillit à son extrémité, carbonisant les citrouilles qui se trouvaient derrière lui.
« Qui êtes-vous ? »
demanda Hagrid à Rita Skeeter en serrant une corde autour du dard du Scroot.
« Rita Skeeter, reporter à la Gazette du Sorcier, » répondit Rita avec un grand sourire qui fit étinceler ses dents en or.
« Je croyais que Dumbledore vous avait interdit de revenir à l'école, »
dit Hagrid en fronçant légèrement les sourcils. Il se releva et traîna le Scroot légèrement écrasé en direction de ses congénères. Rita fit semblant de ne pas avoir entendu ce qu'il avait dit.
« Comment s'appelle ces fascinantes créatures ?»
demanda-t-elle avec un sourire de plus en plus large.
« Des Scroots à putain !»
grommela Hagrid.
« Vraiment ?» dit Rita très intéressée. « N'en avais jamais entendu parler. D'où viennent-ils ?»
Harry vit Hagrid rougir sous sa grosse barbe hirsute et ressentit un pincement au cœur. La question se posait, en effet. Où Hagrid avait-il bien pu se procurer les Scroots ? Hermione, qui semblait avoir pensé la même chose, s'empressa d'intervenir.
« Ce sont des créatures extrêmement intéressantes, » dit-elle, « n'est-ce pas, Harry ?»«
Quoi ? Oh, oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, intéressante, oui, » répondit Harry, tandis qu'Hermione lui marchait sur le pied. « Tiens, tu es là, Harry ?» dit Rita Skeeter en se tournant vers lui. « Alors, tu aimes bien les cours de soins aux créatures magiques ? C'est une de tes matières préférées ?»«
Oui. » répondit fermement Harry. Hagrid lui adressa un grand sourire.
« Merveilleux, » dit Rita.
« Absolument merveilleux. »«
Ça fait longtemps que vous enseignez ?»
demanda-t-elle à Hagrid. Harry remarqua qu'elle regardait successivement Dean, qui avait une grosse coupure à la joue, Lavande, dont la robe était roussie en plusieurs endroits, Simus, qui essayait de soigner ses doigts brûlés, puis les fenêtres de la cabane derrière lesquelles on apercevait les autres élèves, le nez collé contre les carreaux pour voir si tout danger était écarté.
« C'est ma deuxième année seulement, »
répondit Hagrid.
« Merveilleux. Est-ce que par hasard vous accepteriez de m'accorder une interview pour nous faire bénéficier de votre expérience en matière de créatures magiques ? Comme vous le savez sûrement, la Gazette publie une rubrique zoologique chaque mercredi. Nous aimerions bien parler de ces Scroots à tétard.
Scroots à pétard,
rectifia Hagrid.
Oui, pourquoi pas, oui.
Harry trouvait l'idée très mauvaise, mais il était impossible d'adresser le moindre signe à Hagrid sans que la journaliste s'en aperçoive. Il se contenta donc de rester immobile et silencieux, tandis que Hagrid et Rita Skeeter fixaient un rendez-vous aux Trois Balais un peu plus tard dans la semaine, pour réaliser une longue interview. À cet instant, la cloche sonna dans le château pour signaler la fin du cours.
« Eh bien, au revoir, Harry, » lança Rita Skeeter d'un ton joyeux. « Et à vendredi soir, Hagrid. »«
Elle va déformer tout ce qu'il dira, » murmura Harry.
« Du moment qu'il n'a pas importé ses Scroots illégalement, » dit Hermione d'un ton inquiet. Ils échangèrent un regard. C'était exactement le genre de choses que Hagrid aurait pu faire.
Hagrid a souvent eu des tas d'ennuis et Dumbledore ne l'a jamais renvoyé pour autant, fit remarquer Ron en guise de consolation. Le pire qui puisse arriver, c'est que Hagrid soit obligé de se débarrasser des Scroots.
Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Le pire ? Non, je voulais dire le mieux.
Harry et Hermione éclatèrent de rire et allèrent déjeuner en se sentant un peu rassurés. Cet après-midi-là, Harry fut très content d'aller au cours de divination.
Il devait toujours établir des cartes du ciel et faire des prédictions, mais maintenant qu'il s'était réconcilié avec Ron, il pouvait recommencer à en rire. Le professeur Trelawney, qui avait été si contente d'eux lorsqu'il s'était prédit des morts atroces, s'irrita de les voir ricaner pendant qu'elle expliquait les différentes façons dont Pluton s'y prenait pour perturber la vie quotidienne.
« J'ai tendance à penser, »
dit-elle avec son habituel murmure mystique qui ne parvenait pas à dissimuler son agacement,
« que certains d'entre nous, »
elle lança un regard appuyé à Harry,
« se montreraient un peu moins frivoles s'ils avaient vu ce que j'ai vu hier soir en consultant ma boule de cristal. J'étais assise ici même, absorbée par mes travaux de couture, lorsque la nécessité absolue de regarder la sphère m'a littéralement submergée. Je me suis levé, je me suis installé et j'ai scruté les profondeurs cristallines. Savez-vous qui a croisé mon regard au fond de la boule ?
Une vieille chauve-souris avec d'énormes lunettes, murmura Ron entre ses dents. Harry eut du mal à garder un visage impassible.
La mort, mes enfants.
Horrifiés, Parvati et Lavande plaquèrent leurs mains contre leur bouche.
Oui.
Poursuivit le professeur Trelawney en hochant la tête d'un air théâtral.
Elle vient. Elle s'approche de plus en plus près. Elle tourne au-dessus de nous comme un vautour. Elle vole de plus en plus bas, toujours plus bas, au-dessus du château.
Elle fixa Harry qui bâilla longuement et ostensiblement. Elle aurait été un peu plus impressionnante si elle ne nous avait pas déjà fait le coup au moins 90 fois. Dit Harry, lorsqu'ils eurent retrouvé un air plus respirable à la sortie de la classe. « Si je devais tomber mort chaque fois qu'elle me l'annonce, je serais un cas médical absolument miraculeux. »«
C'est une sorte de super concentré de fantôme, » dit Ron en pouffant de rire, tandis qu'il croisait le baron sanglant dont les grands yeux se posèrent sur eux d'un air sinistre.
« Enfin, au moins, on n'a pas eu de devoir à faire. » J'espère que le professeur Vector en a donné plein à Hermione. J'adore ne rien faire pendant qu'elle travaille. »
Mais Hermione ne se montra pas pendant le dîner, et elle n'était pas dans la bibliothèque lorsqu'ils allèrent l'y chercher. Seul Victor Krum s'y trouvait. Ron l'observa derrière un rayon de livres, interrogeant Harry à voix basse pour savoir si, à son avis, c'était le moment d'aller lui demander un autographe. Mais il s'aperçut bientôt qu'une demi-douzaine de filles, cachées derrière le rayon d'à côté, se posaient la même question, ce qui suffit à refroidir son enthousiasme.
« Je me demande où elle est passée. »
dit Ron alors qu'il retournait avec Harry dans la tour de Gryffondor.
« Je sais pas. Faribole. »
Le portrait de la grosse dame avait à peine commencé à pivoter qu'ils entendirent derrière eux un pas précipité qui annonçait l'arrivée d'Hermione.
« Harry !» s'écria-t-elle le souffle court en s'arrêtant à côté de lui dans un long dérapage. La grosse dame haussa les sourcils et la regarda d'un air étonné.
« Harry, il faut absolument que tu viennes. Il s'est passé une chose incroyable. S'il te plaît, viens !»
Elle l'attrapa par le bras et essaya de l'entraîner avec elle dans le couloir.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je te montrerai quand on sera là-bas. Viens vite !»
Harry échangea avec Ron un regard intrigué.
« Bon, d'accord, » dit-il en suivant Hermione dans le couloir.
Ron se dépêcha de les rattraper.
« Surtout ne faites pas attention à moi !» protesta la grosse dame d'un ton irrité. « Ne perdez pas de temps à vous excuser de m'avoir dérangé inutilement. Je serai ravi de vous tenir la porte grande ouverte jusqu'à votre retour. »«
C'est ça, merci !»
lui cria Ron par-dessus son épaule. « Hermione, où est-ce qu'on va ?» demanda Harry. Hermione leur avait fait descendre 6 étages et dévalait à présent les marches de l'escalier de marbre en direction du hall d'entrée.
« Tu vas voir. Attends une minute, » répondit-elle d'un ton surexcité.
Elle tourna à gauche au bas de l'escalier et se précipita vers la porte derrière laquelle Cédric avait disparu le soir où la coupe de feu avait donné les noms des champions. Harry n'était encore jamais allé dans cette partie du château. Ron et lui suivirent Hermione qui descendit une volée de marches, mais au lieu de se retrouver dans un sinistre passage souterrain comme celui qui menait au cachot de Rogue, ils découvrirent un large couloir au mur de pierre, brillamment éclairé par des torches et décoré de tableaux aux couleurs éclatantes qui représentaient surtout des victoires.
« Attends un peu, Hermione, »
dit lentement Harry lorsqu'ils furent arrivés au milieu du couloir.
« Quoi ?» Elle se retourna vers lui avec impatience.
« Je sais où tu nous emmènes, » dit Harry. Il donna un petit coup de coude à Ron et montra du doigt le tableau qui se trouvait derrière Hermione. Il représentait une immense coupe en argent débordante de fruits.
« Hermione, »
dit Ron qui venait de comprendre à son tour. Tu vas encore nous embarquer dans ton sale truc ?»«
Non, pas du tout !» répondit précipitamment Hermione.
« Et ce n'est pas sale, Ron !»« Tu as changé le nom ?» demanda Ron, en fronçant les sourcils. « Comment ça s'appelle maintenant ? Le Front de Libération des Elfes de Maison ?»«
Je te préviens, il n'est pas question que j'entre dans cette cuisine pour leur dire d'arrêter de travailler. Pas question !»«
Je te demande rien !» s'emporta Hermione. « Je suis descendu tout à l'heure pour parler avec eux et j'ai vu.
Viens, Harry, je veux te montrer. »
Elle lui saisit à nouveau le bras, le traîna devant le tableau représentant la coupe de fruits géants, tendit le doigt et chatouilla une énorme poire verte. La poire se mit à se trémousser et à glousser, puis se transforma soudain en une grande poignée de porte de couleur verte. Hermione actionna la poignée, ouvrit la porte et poussa Harry en avant d'un geste décidé. Harry eut alors la vision d'une immense salle, très haute de plafond, aussi vaste que la grande salle qui se trouvait au-dessus, avec des quantités de casseroles, de marmites, de poêles en cuivre entassées le long des murs et une impressionnante cheminée en briques à l'autre bout. Presque aussitôt, une petite créature se précipita vers lui en s'écriant d'une voix suraiguë
« Harry ! Oh Harry ! Harry Potter ! Monsieur Harry Potter !»
Il eut le souffle coupé lorsque le petit elfe le heurta de plein fouet au creux de l'estomac et le serra si fort que ses côtes lui semblèrent sur le point de se briser.
« Oh, Dobby !»
balbutia Harry.
« Oh oui, c'est Dobby, monsieur !»
couina la petite voix au niveau de son nombril.
« Dobby a espéré qu'il reverrait Harry Potter, monsieur, et Harry Potter vient le voir, oh, monsieur !»
Dobby le relâcha et recula de quelques pas en lui adressant un grand sourire, ses énormes yeux verts de la taille d'une balle de tennis débordant de larmes de joie. Il n'avait presque pas changé depuis la dernière fois que Harry l'avait vu. Le nez en forme de crayon, les oreilles semblables à celles d'une chauve-souris, les doigts et les orteils très longs, tout était pareil, sauf les vêtements qui étaient complètement différents. Lorsque Dobby travaillait pour les Malfois, il portait toujours la même taie d'oreiller crasseuse, mais maintenant... il était habillé d'un étrange assortiment de vêtements, pire encore que tout ce qu'avaient pu trouver les sorciers de la Coupe du Monde pour s'efforcer de ressembler à des moldus. En guise de chapeau, il s'était coiffé d'un cache-théière sur lequel il avait épinglé toutes sortes de badges aux couleurs brillantes. Il portait également une cravate ornée de fer à cheval sur sa poitrine nue, un short qui devait être une culotte de football pour enfants et des chaussettes dépareillées. L'une d'elles était noire et Harry la reconnut aussitôt. C'était celle qu'il avait enlevée de son propre pied en s'arrangeant pour que M. Malfoy la donne à Dobby par inadvertance. Malgré lui, il avait ainsi offert la liberté à son elfe. L'autre chaussette était à rayures roses et oranges.
« Dobby, qu'est-ce que tu fais là ?»
dit Harry stupéfait.
« Dobby est venu travailler à Poudlard, monsieur !»
couina l'elfe d'un air tout excité.
« Le professeur Dumbledore a donné du travail à Dobby ?» « Et à Winky, monsieur. »«
Winky ? Elle est là aussi ?» s'étonna Harry.
« Oh oui, monsieur, oui. »
s'exclama Dobby. Il prit Harry par la main et l'entraîna dans la cuisine entre quatre longues tables qui étaient disposées exactement de la même façon que les tables des quatre maisons, dans la grande salle située à l'étage au-dessus. Pour l'instant, elles étaient vides, le dîner étant terminé, mais Harry supposa qu'une heure auparavant, elles avaient dû être couvertes de plats que les elfes envoyaient à travers le plafond sur les tables des élèves. Il y avait dans la cuisine une bonne centaine d'elfes qui souriaient, s'inclinaient, faisaient la révérence sur son passage.
Tous portaient le même uniforme, un torchon à vaisselle frappé aux armes de Poudlard et drapé comme une toge.
Dobby s'arrêta devant la cheminée et tendit le doigt.
« Winky, monsieur, »
dit-il. Elle était assise sur un tabouret à côté du feu. À la différence de Dobby, elle n'avait pas cherché à se procurer des vêtements originaux. Elle portait une petite jupe et un corsage avec un chapeau bleu assorti dans lequel elle avait découpé des trous pour laisser passer ses grandes oreilles. Alors que l'étrange ensemble de Dobby était d'une propreté impeccable, Winky, de toute évidence, ne prenait aucun soin de sa tenue. Il y avait des taches de soupe partout sur son corsage et une brûlure avait fait un trou dans sa jupe.
« Bonjour, Winky !» dit Harry.
Les lèvres de Winky se mirent à trembler, puis elles fondirent en larmes, qui ruisselèrent de ses grands yeux marrons et inondèrent ses vêtements, comme le jour de la Coupe du Monde de Quidditch.
« La pauvre !» dit Hermione.
Accompagnée de Ron, elle avait suivi Harry et Dobby au fond de la cuisine.
« Winky, ne pleure pas. Non, non, ne pleure pas. » Mais Winky pleurait plus fort que jamais. Dobby, lui, regardait Harry, le visage rayonnant.
« Est-ce que Harry Potter voudrait une tasse de thé ?»
demanda-t-il de sa petite voix aiguë en criant presque pour couvrir les sanglots de Winky. « Oui, d'accord, » répondit Harry. Aussitôt, une demi-douzaine d'elfes de maison arrivèrent à petits pas derrière lui, portant un grand plateau d'argent sur lequel étaient disposées une théière et trois tasses, ainsi qu'un pot de lait et une grande assiette de biscuits. « Service est impeccable, » remarqua Ron impressionné. Hermione le regarda en fronçant les sourcils, mais les elfes avaient l'air ravis. Ils s'inclinèrent et repartirent. « Ça fait combien de temps que tu es là, Dobby ?» demanda Harry, tandis que Dobby servait le thé.
« Une semaine seulement, Harry Potter, monsieur. »
répondit Dobby d'un ton joyeux.
« Dobby est venu voir le professeur Dumbledore, monsieur. Vous savez, c'est très difficile pour un elfe de maison qui a été renvoyé de trouver un nouveau travail, monsieur. Vraiment très difficile, oui. »
En entendant ces paroles, Winky se mit à gémir de plus belle. Son gros nez en forme de tomate écrasée coulait abondamment, mais elle ne faisait aucun effort pour arrêter ce flot.
« Dobby a parcouru tout le pays pendant 2 années entières, monsieur, pour essayer de trouver du travail. »
couina Dobby.
« Mais Dobby n'a rien trouvé, monsieur, parce que maintenant, Dobby veut être payé. »
Dans toute la cuisine, les elfes de maison qui regardaient et écoutaient avec beaucoup d'intérêt détournèrent aussitôt les yeux, comme si Dobby venait de dire quelque chose de grossier et de terriblement gênant. « Tu as bien raison, Dobby, » approuva Hermione.
« Oh, merci, Miss !»
dit Dobby avec un sourire qui découvrit toutes ses dents.
« Mais les sorciers ne veulent pas d'un elfe de maison qui demande à être payé, Miss. Ils ont dit « Un elfe de maison n'a pas à recevoir d'argent !» Et ils ont tous claqué la porte au nez de Dobby. Dobby aime travailler, mais il veut porter des vêtements et veut être payé. Harry Potter, voilà. Dobby aime la liberté.
Les autres elfes commençaient à s'éloigner de lui le plus possible, comme s'il était atteint d'une maladie contagieuse. Winky, en revanche, resta près d'eux, mais ses pleurs redoublèrent d'intensité.
« Alors, Harry Potter, Dobby est allé voir Winky, et il a découvert qu'elle aussi avait été libérée, monsieur. »
dit Dobby d'un air ravi. À cet instant, Winky se jeta à plat ventre, tapant de ses petits poings le sol recouvert de dalles et hurlant littéralement de désespoir. Hermione s'agenouilla auprès d'elle pour essayer de la consoler, mais rien de ce qu'elle put lui dire n'eut le moindre effet. Dobby poursuivait son récit, sa petite voix perçante couvrant les lamentations de Winky.
« Alors, Dobby a eu une idée, monsieur. Pourquoi est-ce que Dobby et Winky ne chercheraient pas du travail ensemble ?» s'est dit Dobby. « Eh oui. Où y a-t-il suffisamment de travail pour 2 elfes de maison ?» a dit Winky. Alors Dobby a réfléchi et l'a trouvé, monsieur. Poudlard. Et donc Dobby et Winky sont allés voir le professeur Dumbledore, monsieur, et le professeur Dumbledore les a engagés.
Le visage de Dobby resplendissait et des larmes de joie apparurent à nouveau dans ses yeux.
Le professeur Dumbledore a dit qu'il allait payer Dobby, monsieur, si Dobby voulait être payé. Dobby est un elfe libre et il gagne 1 galion par semaine avec 1 jour de congé par mois.
Ce n'est pas beaucoup, s'indigna Hermione, toujours occupée à essayer de calmer Winky qui continuait de hurler en martelant le sol de ses poings.
Le professeur Dumbledore a proposé à Dobby 10 galions par semaine et au week-end libre.
Reprit Dobby, soudain parcouru d'un léger frisson, comme si la perspective de tant de richesses et de loisirs avait quelque chose d'effrayant.
« Mais Dobby a réussi à faire baisser son salaire, Miss. Dobby aime la liberté, Miss, mais il veut pas qu'on lui donne trop. Non, il préfère travailler. »«
Et toi, Winky, combien te paye le professeur Dumbledore ?» demanda Hermione avec douceur. Si elle avait pensé que parler de son salaire serait une façon de consoler Winky, elle fut très vite détrompée. Certes, Winky cessa aussitôt de pleurer, mais lorsqu'elle se redressa, le visage ruisselant, elle regarda Hermione d'un air furieux.
« Winky est un elfe déchu, mais Winky n'est pas tombé assez bas pour se faire payer. Winky a terriblement honte d'avoir été libéré. »
« Honte ?» dit Hermione sans comprendre. « Mais enfin, Winky, c'est Monsieur Croupton qui devrait avoir honte, pas toi. Tu n'as rien fait de mal, il a été odieux avec toi. » Winky plaqua ses mains sur les trous de son chapeau,
en s'aplatissant les oreilles pour ne plus rien entendre et poussa un hurlement suraigu.
N'insultez pas mon maître, Miss. N'insultez pas Monsieur Coupeton. Monsieur Coupeton est un bon sorcier, Miss. Monsieur Coupeton a eu raison de renvoyer la méchante Winky.
Oh, Winky a du mal à s'adapter, Harry Potter,
dit Dobby en confidence.
Winky oublie toujours qu'elle n'est plus attachée à Monsieur Coupeton. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense désormais, mais elle n'ose pas.
Les elfes de maison n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent de leur maître, s'étonna Harry.
Oh non, monsieur, oh non,
répondit Dobby d'un air soudain grave.
Cela fait partie de l'esclavage des elfes, monsieur. Nous devons garder leurs secrets et nos terres. Nous devons soutenir l'honneur de la famille, de jamais dire du mal d'eux. Mais le professeur Dumbledore a dit à Dobby qu'il n'était pas obligé de respecter cette règle. Le professeur Dumbledore a dit que nous sommes libres de...
Dobby parut brusquement mal à l'aise et fit signe à Harry de s'approcher. Harry se pencha vers lui.
Il dit que nous sommes libres de le traiter de vieux loufoque complètement cinglé si ça nous fait plaisir, monsieur.
Dobby eut une sorte de rire épouvanté.
Mais Dobby ne veut surtout pas faire ça, Harry Potter.
Il hocha la tête et ses oreilles remuèrent comme des éventails.
Dobby aime beaucoup le professeur Dumbledore, monsieur. Il est fier de garder ses secrets.
Mais tu peux dire ce que tu veux des Malfois maintenant, dit Harry avec un sourire. Une heure d'inquiétude passa dans les yeux immenses de Dobby.
Oh, Dobby, oui, Dobby pourrait,
dit-il d'un ton mal assuré. Il bomba son torse étroit et reprit.
Dobby pourrait dire à Harry Potter que ses anciens maîtres sont de très mauvais sorciers qui pratiquent la magie noire.
Dobby resta un instant immobile, tremblant de tous ses membres, horrifié par sa propre audace. Puis il se précipita vers la table la plus proche et se tapa violemment la tête contre le bord en criant.
Méchant Dobby ! Méchant Dobby !
Harry attrapa l'elfe par sa cravate et l'écarta de la table.
Merci, merci Harry Potter, merci,
dit Dobby hors d'haleine en se frottant la tête. C'est une question d'entraînement, assura Harry.
D'entraînement,
couina Winky d'un air furieux.
Tu devrais avoir honte, Dobby, de parler comme ça de tes maîtres. Ce ne sont plus mes maîtres, Winky,
dit Dobby d'un ton de défi.
Dobby se fiche de ce qu'il pense. Tu es un très mauvais elfe, Dobby.
Gémit Winky, des larmes coulant à nouveau sur son visage.
« Mon pauvre Monsieur Coupeton, comment fait-il sans Winky ? Il a besoin de moi, il a besoin de mon aide. J'ai servi les Coupetons toute ma vie. Ma mère les a servis avant moi, ma grand-mère les a servis avant elle. Que dirait-elle si elle savait que Winky a été libérée ? Oh, quelle honte ! Ah, quelle honte !
Elle enfouit son visage dans sa jupe et se remit à hurler. « Winky !» dit Hermione d'un ton ferme. « Je suis certaine que M. Coupeton se débrouille parfaitement bien sans toi. On l'a vu, tu sais. »«
Vous avez vu mon maître ?»
dit Winky d'un ton haletant, en relevant la tête et en fixant Hermione de ses grands yeux exorbités.
« Vous l'avez vu ici, à Poudlard ?»«
Oui, » répondit Hermione. « Monsieur Verpet et lui font partie des juges du tournoi des trois sorciers. »
« Monsieur Verpet est venu aussi ?»
couina Winky. À la grande surprise de Harry, Ron et Hermione, elle parut à nouveau en colère.
« Monsieur Verpet est un mauvais sorcier, un très mauvais sorcier. Mon maître ne l'aime pas. Oh non, ça le sait, il ne l'aime pas du tout alors. »
« Verpet, un mauvais sorcier ?» s'étonna Harry.
« Ah oui, oh oui, 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 oui. »
répondit Winky en hochant furieusement la tête.
« Mon maître a dit des choses à Winky. Mais Winky ne répétera pas. Winky, 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 garde les secrets de son maître. »
Elle fondit à nouveau en larmes et enfouit la tête dans sa jupe.
« Pauvre maître. Ouh, 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 pauvre maître, plus de Winky pour l'aider. Oh, oh. »
Ils ne parvinrent plus à arracher à Winky la moindre parole sensée et la laissèrent pleurer tout son sou. Dobby continua de bavarder joyeusement pendant qu'ils buvaient leur thé, parlant de ses projets et de ses revenus.
« Bientôt, Dobby va acheter un pull en laine, Harry Potter, »
dit-il joyeusement en montrant sa poitrine nue. « Tiens,
« Justement, » dit Ron, qui semblait avoir pris l'elfe en affection, « si tu veux, je te donnerai celui que va me tricoter ma mère pour Noël. Elle m'en envoie un chaque année. Ça te dérange pas, le violet ?» Dobby était enchanté. « Il faudra peut-être le rétrécir un peu pour qu'il soit à ta taille, mais il ira très bien avec ton cache-théière. » Lorsqu'ils s'apprêtèrent à partir, de nombreux elfes se précipitèrent vers eux pour leur offrir des choses à emporter. Hermione refusa, visiblement navrée de les voir s'incliner et multiplier les révérences. Mais Harry et Ron remplirent leurs poches de gâteaux à la crème et de tartes. « Merci beaucoup !» lança Harry aux elfes, qui s'étaient tous rassemblés autour de la porte pour leur souhaiter bonne nuit. « À bientôt, Dobby !»«
Harry Potter, est-ce que Dobby pourra venir vous voir un jour prochain ?»
se risqua à demander Dobby. « Bien sûr que tu peux !» répondit Harry. L'elfe eut un sourire rayonnant. « Vous savez quoi ?» dit Ron alors qu'il remontait les marches menant dans le hall d'entrée. « Pendant toutes ces années, j'ai été très impressionné par la façon dont Fred et George arrivaient à rapporter des tas de trucs de la cuisine. Mais finalement, c'est pas vraiment difficile. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ces elfes, » dit Hermione. « Je veux dire que Dobby soit venu travailler ici. Les autres vont voir à quel point il est heureux d'être libre. Et petit à petit, ils finiront par comprendre que c'est ça qu'il leur faut. « Espérons qu'ils n'iront pas voir Winky de trop près, » dit Harry. « Oh, elle va sûrement retrouver le moral, » assura Hermione d'un ton qui ne paraissait pas très convaincu. « Une fois que le choc sera passé et qu'elle se sera habituée à Poudlard, elle verra qu'elle est beaucoup mieux sans ce croupeton. »«
Elle a l'air de beaucoup l'aimer, » dit Ron la bouche pleine. Il venait de mordre dans un gâteau à la crème.
« En tout cas, elle n'a pas une très bonne opinion de Verpet, » fit remarquer Harry. « Je me demande ce que croupeton a dit de lui. »
« Sans doute qu'il n'est pas très bon comme directeur de département, » répondit Hermione. « Et si on regarde les choses en face, il n'a pas vraiment tort, non ?»«
J'aimerais quand même mieux travailler pour lui que pour le vieux croupeton, » déclara Ron. « Au moins, Verpet a le sens de l'humour. »«
Ne dis pas ça devant Percy, » dit Hermione avec un sourire.
« Oh, de toute façon, Percy ne travaillerait jamais pour quelqu'un qui a le sens de l'humour, » répondit Ron, qui s'attaquait à présent à un éclair au chocolat. Si les plaisanteries pouvaient danser toutes nues avec les casse-théières de Dobby sur la tête, ils ne les verraient même pas.